Le jour du départ tant attendu, le vrai arrive. Nous étions la veille au soir dans un tel état de fébrilité que nous n'avons quasiment pas dormi de la nuit. Nous nous extirpons des duvets et ouvrons la tente. L'aube éclaire à peine les monts environnants, mettant en lumière une vache qui mâche nonchalamment. D'un regard doux, elle semble vouloir dire que c'est une belle journée qui s'annonce. Nous remplissons nos poumons d'une première bouffée d'air qui sont bons la liberté. Mais on dirait bien que nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin.
À l'emplacement exact où nous avions laissé les chevaux la veille, il n'y a plus rien, nos montures ont disparu. L'aventure n'a pas commencé qu'elle devait déjà se terminer. Les nombreuses voix nous auraient alertés contre les vols et les fugues inévitables ou tout autre danger qui guette le cavalier au long cours nous reviennent à l'esprit. Et si ces oiseaux de mauvaise augure avaient eu raison, nous ne voulons pas y croire, il nous faut retrouver les chevaux, nous n'avons pas le choix.
Bien décidés à ne pas abandonner, nous remplissons nos poches de quelques noix et emportons notre paire de jumelles. La première hypothèse est celle du vol, puisque les trois animaux ont disparu. Que l'un d'entre eux s'échappe est concevable, mais les trois ensemble. Et puis les bergers rencontrés la veille étaient bien curieux avec toutes leurs questions. Nous entamons les recherches dans la direction de leur cabane, mais les seuls chevaux que nous y apercevons sont bel et bien les leurs.
Bonjour à tous, nous sommes les élèves de seconde 1 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à la médiathèque avec Louis Aragon de Firminy et sur Radio Ondaine Élise Després, lauréate du prix littéraire 2024 du festival Curieux Voyageurs, pour le livre Cavalier, la chevauchée kirghize aux éditions Transboréales qu'elle a écrit avec sa sœur Léopoldine. Cavalière, la chevauchée kirghize est une histoire d'une aventure de 4 mois. En Asie centrale, une histoire d'un périple nomade à cheval. Bonjour Élise Després, pouvez-vous vous présenter, vous et votre sœur?
Bonjour, ravie d'être là avec vous. Pour me présenter, je vais essayer de faire des réponses courtes parce que je sais que vous avez préparé plein de questions. Donc moi, j'ai bientôt 35 ans. À l'époque du voyage, j'en avais 30 et ma sœur 32. On est deux jeunes femmes. On a grandi en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Et donc à 30 et 32 ans, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment d'aller réaliser nos rêves d'enfant. Et donc on a décidé de partir pendant plusieurs mois, traverser une partie de l'Asie centrale, les monts célestes, les montagnes qu'on appelle les Tian Shan, avec trois chevaux et un chien.
En lisant votre biographie, le voyage semble être une composante importante de votre vie.
Oui, en effet, c'est une composante importante de ma vie. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui m'a permis de voyager très tôt et très souvent dans de nombreux pays très différents les uns les autres. Donc ça m'a permis de découvrir des cultures qui étaient radicalement différentes à la mienne, d'entendre des langues que je comprenais pas, de sentir des odeurs que j'avais jamais senties avant. Donc tout ça, c'est autant d'habitudes, autant de réflexes qu'on peut acquérir quand on est jeune, pour après, quand on se lance dans une traversée comme ça, dans un pays qui est radicalement différent du nôtre, on se sent un tout petit peu plus armé, ou en tout cas un petit peu plus à l'aise. Et surtout, moi j'ai appris très tôt à voyager toute seule aussi, quand j'avais à peu près votre âge. Je partais toute seule en Australie pendant plusieurs mois par exemple. Et en fait ça m'a permis de me rendre compte aussi que je pouvais avoir confiance en moi, que j'avais le droit de me tromper aussi, c'est pas grave de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Il faut juste essayer d'apprendre et de le faire avec pas mal d'humilité et surtout beaucoup de précautions. Enfin, pas prendre des risques inconsidérables. Mais c'est surtout ça, ouais, les voyages, ce que ça m'a appris.
D'où vient cette envie de voyager? Est-ce que vos parents étaient de grands voyageurs?
Mes parents étaient de grands voyageurs et le sont toujours. Et même mes grands-parents étaient de grands voyageurs. En fait, moi, j'ai grandi, j'avais pas la télé quand j'ai grandi. Ça peut vous paraître complètement bizarre maintenant en 2024. Mais ouais, j'avais pas la télé dans la maison où j'étais. Et en fait, j'ai grandi avec les histoires de mes parents et de mes grands-parents qui me racontaient les histoires de voyage. Ma grand-mère qui allait voir les Maharajas en Inde, ma mère qui se battait avec des singes dans l'Himalaya ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce avec quoi moi j'ai grandi. Donc forcément, ça forge vraiment une envie d'aller, moi aussi, à mon tour, découvrir des choses.
Où avez-vous voyagé? Parmi tous ces voyages, lequel vous a le plus marqué?
C'est une très bonne question et ça prendrait pas mal de temps à répondre, donc je vais pas lister tous les pays. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis allée presque sur tous les continents. Je suis jamais allée en Antarctique, c'est le seul que j'ai pas fait. Mais sinon, j'ai eu la chance surtout de vivre dans tous les continents. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de voyager et de rester longtemps sur place, de passer plusieurs mois, plusieurs années dans les pays. Et ça, c'est vraiment important pour s'imprégner de la culture et découvrir vraiment comment vivent les gens, apprendre la langue. C'est déjà très bien de pouvoir y passer quelques jours, quelques semaines, mais tout d'un coup, l'expérience, elle est tout autre quand vraiment, on prend le temps de vivre avec les gens. Et je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'était sûrement l'Inde. J'y suis allée quand j'étais assez jeune, peu de temps après le lycée. Et je crois que j'étais encore un peu trop jeune peut-être pour comprendre tout ce qui se passait autour de moi en Inde. C'est un pays qui est quand même très complexe, avec un système de caste. La société, elle est organisée d'une façon très différente de la nôtre. Et ça, j'avais beaucoup de mal à le comprendre. Et en même temps, tous les jours, on est confronté à tellement de choses que notre cerveau a du mal à comprendre, que ça forge des convictions, ça forge des valeurs. Et donc, je pense que cette expérience indienne, elle a été vraiment très, très importante pour moi.
Votre livre Cavalière, la chevauchée kirghize, raconte une traversée de l'Asie centrale. Pourquoi cette destination ?
Pourquoi le Kirghizistan ? Déjà parce que c'est impossible à prononcer comme nom. Le Kazakhstan aussi, parce que peu de personnes arrivent à le situer sur une carte. Donc ça nous amusait en tout cas d'aller là-bas. Et surtout parce que depuis toute petite, l'Asie centrale, nous, ça nous fait rêver. C'est-à-dire qu'on rêvait de grands espaces, de pays où il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, il y a juste des steppes à perte de vue, des montagnes immenses dans lesquelles on peut se perdre. Et il y a encore pas mal d'endroits sur Terre qui sont comme ça, assez sauvages, mais nous, c'était vraiment l'Asie centrale qui nous appelait. Et puis, il y avait aussi le mythe autour des routes de la soie. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est des routes qui sont empruntées depuis des siècles et des siècles par des caravanes qui transportent des marchandises. Aujourd'hui, elles sont toujours empruntées, mais par des camions qui viennent de Chine. Et nous, ça nous intéressait d'emprunter ces mêmes routes, de voir un peu toute l'histoire qu'il y avait en Asie centrale. Et aussi parce que à l'école, au collège ou au lycée, l'histoire des ex-républiques soviétiques, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et donc, on avait envie de découvrir cette culture et de la découvrir avec les gens sur place qui puissent eux-mêmes nous expliquer, en fait, ce par quoi ils étaient passés et tous les détails de ces cultures de nomades ou de semi-nomades. Mais peut-être qu'il y a une question qui arrive après là-dessus.
Dans ce livre, vous nous racontez une aventure avec votre sœur Léopoldine, mais aussi avec d'autres éléments importants, les chevaux. Quelle est votre relation avec ces animaux ?
La relation avec les animaux, elle est quasi fusionnelle en fait. Je pense que quand on voyage plusieurs mois comme ça avec des animaux, il y a quelque chose de très particulier qui opère. Au début, les animaux, quand on les a achetés, nous, ils étaient semi-sauvages. Ils n'étaient pas du tout convaincus à l'idée de venir avec nous, vraiment pas. On les a même perdus plusieurs fois tellement ils n'étaient pas prêts en fait à partir avec nous. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que ce sont nos chevaux, nos moyens de survie. Et réciproquement, en fait, on devient leurs moyens de survie aussi. Et en fait, quand on fait un voyage, ce qu'on appelle un voyage au long cours, c'est-à-dire qu'on part comme ça pendant plusieurs mois, c'est dur, c'est compliqué. Il y a des moments où on a mal, on a froid, on a peur. Et en fait, de se promener avec des animaux, ça permet de se concentrer sur eux et d'oublier un petit peu ce qui se passe en nous. Donc en fait, même si on a mal, si on est fatigué en fin de journée parce qu'on a marché 30 km, parce qu'on a fait un col à 1500 mètres, et ben tant qu'on n'a pas trouvé un endroit où il y a suffisamment d'herbe ou suffisamment d'eau pour les chevaux, et ben on va faire 10 km de plus s'il le faut. Si on se rend compte qu'ils sont en danger parce que on sent que le chien est un peu énervé, on sait qu'il y a des loups qui sont autour, des ours qui sont pas très loin, et ben on va continuer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve un bivouac, un endroit pour poser la tente le soir, qui soit vraiment sécurisé pour les animaux. Donc en fait, ce qui est un peu particulier peut-être à comprendre, c'est que à leur côté, on est devenu un petit peu animal. Et à nos côtés, ils sont devenus un peu humains. Après, nous, on leur prêtait des traits de caractère, vraiment, mais parce qu'on était H24 avec eux. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui opère comme ça, on fusionne un peu avec nos animaux.
Nous prenons nos repères, autant dans la culture kirghize que dans l'environnement. Deux dimensions qui revêtent la même importance en vue du bon déroulement de l'expédition. Par chance, la première traite des juments a lieu aujourd'hui. Les éleveurs fêtent l'événement, car c'est avec ce lait que sera élaboré le koumis. Des amis sont venus célébrer ce moment important, et tous sont réunis autour du troupeau, constitué d'un étalon, d'une quinzaine de juments et de leurs poulains âgés de quelques semaines. Ces derniers sont attachés à la station de traite, qui se résume à une corde tendue au sol.
Ils sont encore peu habitués à cette entrave qui les empêche de rejoindre leur mère, parfois si sauvage et apeuré qu'eux. L'air s'emplit de hennissements inquiets, mais toute équité kirghize débute ainsi dans la vie. attaché la journée à une corde en attendant de pouvoir galoper en liberté la nuit aux côtés de sa mère. Voici donc comment naît sa patience légendaire. Sur ces hauts plateaux, la traite des juments est une activité répartie par sexe. Aux premières lueurs, les hommes rassemblent le troupeau qui s'est éloigné avant d'être rejoint par les femmes pour tirer le lait. C'est à Albanéus que revient cette mission presque solennelle et nous observons curieuses le balai parfaitement réglé qui prend forme sous nos yeux.
Comment vous vivez cette passion du cheval tous les jours ?
Moi j'ai grandi avec des chevaux. Dans la famille dans laquelle j'ai grandi, il y avait des chevaux avant que j'arrive, et je pense vraiment que j'étais posée sur le dos d'un cheval avant de savoir marcher. Donc en fait le cheval a toujours fait partie de ma vie. Et puis après, quand j'ai grandi, quand j'avais votre âge, j'avais encore des chevaux à la maison, donc j'en faisais régulièrement. Et quand j'ai commencé mes études supérieures, je suis partie à l'étranger, donc j'ai un peu arrêté. Et puis après on a fait ce voyage là. Et en rentrant de voyage, c'est compliqué le retour après une expérience comme ça. Et en fait, j'ai eu besoin de garder ce lien-là. Donc, j'ai retrouvé un cheval. Et aujourd'hui, j'ai encore un cheval. Donc, ça me permet de continuer à en faire et de retrouver ce lien avec l'animal. Enfin, de continuer à prendre soin de lui et de pouvoir un peu m'échapper en montagne de temps en temps. Et essayer de revivre un tout petit peu les sensations que j'avais pendant le voyage.
Comment avez-vous choisi les chevaux qui vous ont accompagné pendant ces 4 mois ?
C'est une bonne question ça. Comment on les a choisis? C'est pas évident de choisir des chevaux parce qu'en fait faut pas se tromper, parce qu'on s'apprêtait à partir pendant plusieurs mois avec eux, et puis une fois parti, en fait on est loin de tout. Donc s'il y a un problème avec le cheval, on peut pas changer quoi. Enfin c'est pas comme un vélo où on peut changer la roue, comme une voiture où on pourrait changer un pneu. Là faut vraiment pas se planter quand même sur le choix du cheval. Et nous, vu qu'on a grandi avec des chevaux, on savait un petit peu quoi regarder en fait pour déterminer si le cheval était en bonne santé. Par exemple des choses toutes bêtes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut regarder les dents, il faut regarder les oreilles, il faut regarder les aplombs, la manière dont ils se tiennent sur leurs jambes, voir s'ils boitent ou pas. Et avec ces informations-là, en fait, on se dit, ok, peut-être que là, on se sent en confiance pour partir avec eux. Après, nous, on voulait ce qu'on appelle des hongres. Dans les chevaux, il y a des étalons. Les hongres, c'est des étalons qui sont castrés, et les juments. Les hongres, c'est ce qu'il y a de plus calme, en fait. Les étalons, on savait qu'on allait être amené à rencontrer des chevaux sauvages. Avec des étalons, c'était sûr qu'ils allaient se battre tout le temps. Donc là, ça devient trop dangereux. Avec des juments, on était sûr, si on croisait des étalons, on allait se retrouver avec un poulain à un moment dans le voyage. Ça, on voulait pas. Et donc, les hongres, en fait, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Donc, c'était ça, nos critères. Et après, on a essayé de monter dessus. C'était des chevaux semi-sauvages, donc on a posé une selle dessus. Ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas vu un être humain. On est monté dessus, ils nous ont testés comme tous les chevaux sur Terre. On a tenu bon. La première fois qu'on monte sur un cheval, il faut essayer de ne pas tomber, parce que c'est là qu'en fait la relation elle se noue. Donc nous on a tenu bon, et après on s'est dit c'est parti, on verra bien comment ça se passe quoi.
Pouvez-vous nous les décrire ?
Les 3 chevaux ?
Oui.
Ouais. On avait Moni. Moni, c'est un petit cheval gris qui est vraiment tout petit, qui doit faire, 1m50. Son dos, il est à 1m50 de hauteur. Et Moni, c'est un petit cheval qu'on a acheté sur un marché aux bestiaux. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est. C'est un marché comme là où vous pouvez acheter des fruits et légumes, de la nourriture. C'est la même chose pour les animaux. Et Moni, en fait, le jour où on l'a acheté, c'est simple. Soit nous, on l'a acheté, il partait avec nous pour plusieurs mois. Soit il était acheté pour de la viande et il terminait au fond d'une casserole. Donc Moni, c'est un cheval qui avait eu un parcours de vie un peu compliqué. Il avait pas mal de cicatrices sur le corps. Même si les Kirghizes prennent vraiment soin de leurs animaux, lui, on se doutait qu'il avait un parcours de vie quand même un peu compliqué. Et donc Moni, il a compris qu'on lui avait sauvé la vie. Et donc, il était en adoration devant tous les êtres vivants sur Terre. Enfin, que ce soit une marmotte, un cheval, un étalon, un chien, vraiment, il adorait tous les êtres vivants. Donc Moni, c'est un cheval qui était vraiment très fidèle. Au début, on le tenait, et en fait, au bout de quelques semaines, on n'avait même plus besoin de le tenir, il était en liberté, et il nous suivait, vraiment comme un chien. Après, on avait Tibouchon. Tibouchon, c'était un cheval qui était vraiment très très beau. Tout le monde le regardait avec beaucoup d'envie. Et donc là, on a eu peur de se le faire voler, parce qu'il faut savoir qu'au Kirghizistan, ça représente de l'argent en fait, un cheval. Et on était assis, littéralement sur un petit tador quand même. Et les gens le regardaient vraiment parce que c'était un cheval qui avait coché toutes les cases d'un cheval pour faire du coq-bourou, du bouscachi, c'est le sport national là-bas. Et donc on savait que potentiellement, fallait qu'on le surveille vraiment celui-là, sinon on risquait de se le faire voler. Et lui, c'était un cheval qui n'était pas hyper courageux s'il était tout seul, mais courageux s'il suivait les autres. Il était très 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 calme aussi. Et après on avait Victor, et Victor il avait un caractère horrible, c'était un gros bourrin quand même, faut le dire, un gros bourrin qui traçait sa route et qui faisait pas vraiment attention aux autres, mais au moins quand il y avait un danger, en fait lui on le faisait passer devant et c'était vraiment le plus fiable, et une fois que lui y passait, les deux autres y suivaient. Donc c'était vraiment trois caractères, et les trois ne se connaissaient pas à la base, donc ils ont dû apprendre à se connaître aussi, et puis ce qu'on appelle une caravane, comme ça quand on voyage avec des animaux, la caravane elle s'est soudée au fur et à mesure, et les chevaux ont appris à faire connaissance les uns avec les autres.
Quelles sont les conséquences d'un voyage à cheval sur cette durée ?
Ok, alors, les conséquences d'un voyage à cheval sur la durée. On a mal aux fesses, ça c'est une première conséquence. Ça fait très très mal aux fesses quand même de voyager à cheval. Les conséquences d'un voyage à cheval sur la durée, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport aux animaux, enfin à quel point, en fait, on est tellement plongé dans la nature tout le temps que tout d'un coup, on se sent plus très bien en ville. On se rend compte que un environnement qui nous paraissait hostile, dangereux au début, et tout d'un coup ça devient quelque chose qu'on va rechercher, quoi. Enfin, et je pense que c'est ça la conséquence du voyage à cheval sur la durée.
Et quelles sont les contraintes ?
Les contraintes. les contraintes, elles sont assez simples. En fait, on voyage avec des êtres vivants qui sont dotés de leur propre volonté. Ça veut dire que, imaginons, on aurait fait le voyage avec des vélos. Le soir, on pose le vélo à côté de la tente. Le matin, a priori, il est toujours à côté de la tente, le vélo. Un cheval, c'est pas le cas. Le cheval, pendant la nuit, il peut décider de s'en aller. Et en fait, c'est ça la plus grosse contrainte, en fait, c'est que il faut gérer un autre être vivant qui a des peurs, qui a pas envie d'avancer et qui, des fois, se bat avec d'autres chevaux et vraiment peut partir pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment la contrainte principale. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, l'autre contrainte, c'est que tous les jours, il faut trouver suffisamment d'herbe et suffisamment d'eau pour pouvoir les nourrir et les abreuver en abondance. Et ça, c'est une sacrée contrainte, là où, à pied ou à vélo, on peut se permettre de s'arrêter sur de la caillasse, ça pose pas de problème. Là, nous, c'était impossible avec les chevaux.
La conversation avec Eliam et ses copines est passionnante. C'est à notre tour d'expliquer ce qui nous amène ici. Nous en profitons pour aborder le sujet délicat du chiot. Quoique résidente d'Almaty, la jeune femme se laisse convaincre d'adopter l'animal. Voyons ça de bon augure pour ses vœux de maternité. Nous nous gardons bien de lui préciser que l'animal, qui ne pèse que quelques centaines de grammes, atteindra le gabarit d'un petit poney dans plusieurs mois.
Reconnaissante et soulagée de cette solution, nous tendons à Aliem le chiot, ainsi que le court offert par le berger. Impossible de manger ce fromage très salé, son goût est trop prononcé. Ce sont des offrandes qu'elle ne s'attendait pas à recevoir de la part d'étrangères, mais qu'elle accepte volontiers. Le plus content dans cette histoire est sans doute Ben, qui n'aura pas besoin de jouer la nounou. Nous retraversons le ruisseau, délesté d'un poids, tandis que les femmes s'éloignent, riant toujours aux éclats et chargées d'un précieux butin.
En les regardant, nous mesurons la chance d'avoir pu les rencontrer, d'avoir partagé ce moment aussi privilégié qu'inattendu. Voyager en étant deux femmes seules est souvent vu comme un désavantage, voire un risque. Cette douce soirée prouve le contraire. Si nous avions été accompagnés d'un guide, d'un ami ou d'une figure masculine, ces confidences n'auraient pas été envisageables.
Venons-en au livre « Cavalière, la chevauchée kirghize ». A-t-elle été écrite pendant le voyage, comme un journal de bord ou après à votre retour ?
Un peu des deux en fait. Pendant le voyage, Léopoldine, pas tant que ça, mais moi j'avais besoin tous les jours d'écrire quelque chose dans un petit carnet. Parce qu'en fait, il se passait tellement de choses dans la journée que j'avais peur d'oublier. Et j'avais peur qu'au bout d'un moment, le cerveau il fasse son travail et il se dise « Non, mais en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça, t'es en train d'imaginer. » Donc j'avais vraiment besoin tous les soirs dans la tente d'écrire quelques lignes en fait. Et aussi pour se dire « Ok, en fait je le dépose là, et puis après je ferai le tri en rentrant de toutes ces émotions-là. » Donc j'avais ce petit carnet-là. Et après vraiment le livre à proprement parler, on l'a écrit au retour. Et pour la petite histoire, on voulait pas écrire de livre. Enfin, c'était pas du tout un projet à la base, et c'est notre maison d'édition Transboréal qui nous a contacté, qui nous a dit bon, une histoire comme ça, sachez que ça peut nous intéresser. Et en fait, en même temps, moi, j'avais écrit un livre à la base, mais uniquement pour ma sœur, parce que j'avais un peu trop de pudeur, j'arrivais pas à lui dire des choses, donc j'ai voulu lui écrire les choses. Donc je lui ai écrit quand même 200 pages, c'était une longue lettre, mais à la base j'ai d'abord écrit pour ma sœur, et après on s'est dit en fait ça peut peut-être devenir un livre, donc on l'a retravaillé et c'est devenu le livre que vous avez pu lire.
L'écriture a-t-elle été fluide?
Oui et non. Oui, dans le sens où on l'a écrit vraiment à quatre mains. On l'a écrit toutes les deux. On a fait le choix de pas faire un chapitre sur deux. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a troublé à la lecture. On utilise le nous, on sait pas trop qui parle. Mais c'était un vrai choix, en fait, parce qu'on a fait ce voyage ensemble. Donc, on voulait raconter le récit de voyage ensemble. Et fluide, oui, mais par contre, c'était à distance. Parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Thonon, en Haute-Savoie. Et Léopoldine habitait à Nantes. Donc, en fait, on a tout fait à distance. Et on a fonctionné en couches, en strates. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui écrivait quelque chose, l'autre lisait, modifiait, et hop, elle le renvoyait à l'autre. Et donc ça a été un ping-pong comme ça pendant plusieurs mois. Donc fluide, mais un petit peu long quand même. On s'est partagé l'écriture vraiment de manière très complémentaire. Encore une fois, on n'a pas fait un chapitre sur deux, mais plutôt on a relu. Et puis il y a des passages, vous avez peut-être remarqué, où on s'est séparés. Donc forcément, là, c'était l'une ou l'autre qui pouvait écrire. Et moi, j'avais plutôt tendance à avoir besoin de décrire les souvenirs, les sensations, les couleurs, les paysages. Là où Léopoldine, pardon, je l'appelle souvent Léo, elle racontait un petit peu plus ses expériences avec les animaux. Donc c'est peut-être ça, on s'est un peu répartis comme ça.
Y a-t-il eu des coupures à la relecture ?
Ouais. Heureusement pour vous, hein. Heureusement pour vous, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus gros que ça à la base et pas forcément beaucoup plus intéressant. Mais oui, il y a eu des coupures. Bah déjà, pour ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en fait, à la base, on s'écrivait l'une pour l'autre. Donc, il y a des choses qui nous concernent que nous et qui ne sont pas du tout intéressantes pour vous, lecteurs. Et puis après, il y a le travail avec la maison d'édition Transboréale. En fait, il faut le voir un peu comme un travail artisanal, un livre. C'est-à-dire qu'on a une espèce de matière brute, comme si on avait un bloc de terre. Et puis après, on va venir le façonner un petit peu. Et on enlève des détails, on déplace des parties, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément pertinent à ce moment-là. Et donc, ouais, il y a eu pas mal de coupures à l'écriture.
Comment avez-vous planifié votre voyage en Asie centrale ?
Eh ben, on l'a pas vraiment planifié. On n'est pas très doué pour planifier les choses. On savait que on était toutes les deux disponibles pendant quelques mois. En tout cas, on s'est rendu disponibles. Et après, on avait quelques contacts au Kirghizistan et on s'est dit. Ok, bah allez, on essaie de partir par là. Et ensuite, c'est une fois arrivé sur place, pendant 3 semaines, qu'on a vraiment commencé à planifier les choses, qu'on a rencontré des locaux, qu'on a construit l'itinéraire avec eux, qu'on a commencé à chercher les chevaux, à acheter le matériel. Et donc, ça s'est fait vraiment en 3 semaines sur place au début du voyage. Et puis après, surtout, une fois qu'on s'est lancé, on avait juste une carte et une boussole. Et en fait, tous les jours, selon l'état de fatigue, selon l'état de santé des chevaux, et ben en fait, on faisait l'itinéraire au fur et à mesure. Donc vraiment, on n'a pas planifié. Grand chose quand même.
Quel a été votre ressenti avant le départ et à votre arrivée là-bas?
C'est des questions qui sont pas faciles. Le ressenti avant le départ, on était hyper heureuse en fait de se dire ça y est, on réalise notre rêve de gosse quoi. On réalise un rêve d'enfant. Je pense qu'on se rendait pas trop compte, évidemment, ce dans quoi on s'engageait. On peut jamais vraiment se préparer à ce qui va se passer sur place. Et heureusement qu'on savait pas, parce que sinon on n'y va pas. On s'est posé des milliards de questions. On a trouvé des milliards de réponses pour pas y aller. Et à un moment, on s'est dit, bah, en fait, faut juste essayer, quoi. Et faut essayer. Et en fait, c'est ok de se tromper. C'est ok de s'arrêter. Et toutes les deux, en fait, on s'est fait des promesses. On se connaît très bien l'une et l'autre, mais on a fixé des espèces de lignes rouges. On s'est dit, bah, ça, moi, j'irai pas au-delà de ça. Ou ça, je veux pas faire ça, j'en ai trop peur. Ou ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et toutes ces promesses qu'on s'est fait l'une à l'autre, ça permettait, au moment où ça devenait très compliqué, soit trop dangereux, soit trop fatigué, au moment où on se rend compte que le cerveau, il fait plus trop la différence entre la réalité et ce qu'on a imaginé, et ben, on savait que là, on pouvait prévoir la réaction de l'autre en fait. On se connaissait suffisamment et on s'était dit ces choses-là. Donc je pense que ça c'était avant. Je m'écarte peut-être un peu de ta question. Et le retour, enfin après, c'est toujours la période la plus compliquée en fait. C'est hyper dur de revenir quoi et de faire le tri dans tout ce qui s'est passé. Mais donc un mélange de beaucoup d'émotions au retour. Franchement c'était un joyeux bordel quand même. Enfin désolé de l'expression mais.
Nous Nous acceptons le défi avec l'enthousiasme des ignorants. Si nous avions seulement entreaperçu la montagne administrative et technique qui se dressait devant nous, nous aurions vite été découragés. Ainsi, faut-il parfois fermer les yeux sur la difficulté pour se lancer et surtout procéder par étapes. Un problème après l'autre deviendra notre mantra en voyage. Mais ce que nous ignorions tout autant, c'était la myriade de bonnes étoiles qui se déposeraient miraculeusement sur notre route. La première d'entre elles a pour nom Rustam, dont nous faisons la connaissance peu après notre arrivée.
Ce quinquagénaire au visage souriant et buriné par le soleil nous ouvre généreusement les portes de son pays et de sa culture. Pour nous, il incarnera très vite à lui seul toutes les facettes du Kyrgyzstan. Lors de notre rencontre, à une terrasse, Rustam, vêtu d'un polo à rayures et d'un jean trop large, s'est présenté sobrement, chercheur en mathématiques à l'université. Nous avons découvert qu'ici, cette profession va malheureusement de pair avec un salaire dérisoire. Les publications paraissent en russe, et la plupart des travaux sont commandités par Moscou, qui reste le centre névralgique de l'Asie centrale.
Quelles ont été les conditions de vie durant ces 4 mois? Qu'est-ce qui vous a manqué?
Les conditions de vie, elles ont été un peu sommaires. On n'avait vraiment pas grand-chose avec nous. On avait juste une tente, des duvets, un matelas, enfin deux matelas, deux duvets. On avait peut-être deux t-shirts chacune, un pantalon. Enfin, vraiment, on avait peu de choses. On n'avait pas grand-chose à manger. On avait suffisamment d'eau à boire et puis on avait un petit réchaud pour se faire à manger. Mais en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'est tout ce dont on avait besoin, quoi. Enfin, on n'avait pas besoin de plus que ça. Et même au fur et à mesure, bah, on se débarrassait de certaines choses, quoi. Parce qu'on se rendait compte qu'on avait... moi, j'avais ma sœur, c'était suffisant. Après, a priori, il y a des jours où on n'a pas réussi à manger, mais globalement, on arrivait quand même à se nourrir. Et donc vraiment, ouais, des conditions très, très sommaires. Donc, vraiment pas grand-chose, ouais.
Comment communiquez-vous là-bas avec les habitants et avec les autorités ?
Avec les autorités, on n'a pas vraiment communiqué. Avec les habitants, Léopoldine, ma sœur, avait appris le russe avant de partir. Vu que ce sont des ex-républiques de l'URSS, de l'Union soviétique, beaucoup de personnes parlent encore russe. Donc, elle avait eu cette intelligence-là de prendre des cours de russe. Donc, elle savait un peu les questions de base pour pouvoir demander notre chemin, savoir si on pouvait passer par telle montagne, s'il y avait de l'eau pour les chevaux, si on pouvait avoir à manger. Donc, toutes ces questions-là, elle les maîtrisait. Et puis après, on avait un petit dictionnaire avec nous qui était un dictionnaire russe-anglais. Et comme ça, ça nous permettait de montrer des mots et de discuter. Alors, on discutait comme des enfants de 3 ans, hein, on faisait pas de phrases, mais au moins, on avait quelques mots en commun. Et puis après, sur place, en passant du temps avec les bergers, en passant du temps sous la yourte, on a appris le kirghiz et on a appris le kazakh. Et après, pour les autorités, quand on est arrivé, nous, on s'est présenté à l'ambassade de France pour leur dire on est des ressortissantes françaises et on s'apprête à faire un voyage. On ne connaît pas l'itinéraire, on ne sait pas trop combien de temps on va rester au Kirghizistan. Et ça, c'était une très mauvaise nouvelle pour eux parce que c'est un pays qui est dangereux. Enfin, ça comporte des risques de voyager comme ça. Et c'est pas rassurant pour eux de savoir qu'il y a deux femmes qui se baladent dans un pays comme ça, sachant qu'il n'y a pas de moyens de secours au Kyrgyzstan. S'il se passe quelque chose, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'équipe de secouristes comme on pourrait avoir en France. Donc ils n'étaient pas hyper rassurés quand même de nous savoir dans le pays.
Pouvez-vous nous décrire le mode de vie des personnes que vous avez rencontrées ?
Ouais, bien sûr. Alors c'est un peu différent au Kyrgyzstan et au Kazakhstan. Au Kyrgyzstan, c'est ce qu'on appelle des semi-nomades. Ça veut dire qu'ils sont pas nomades toute l'année, comme en Mongolie par exemple, là où les gens vivent toute l'année dans la yourte. Là, ils vont passer 4-6 mois de l'année dans la yourte, dans ce qu'on appelle des jailos. Donc c'est des prairies très très hautes qui sont à 3800 mètres, 4000 mètres d'altitude. À titre d'information, le Mont Blanc, c'est 4800 mètres d'altitude, pour que vous voyez un petit peu la différence. Et donc, eux, donc pendant une partie de l'année, ils ont une maison, comme vous et moi, avec tout ce qu'il faut dedans. Et quand le printemps arrive, ils vont prendre leur yourte, qui est une immense tente qui peut être démontée. Ils vont monter dans ces prairies d'altitude avec leurs enfants, des fois avec les grands-parents. et surtout tous leurs troupeaux, tous les animaux. Et là, ils restent pendant quelques mois et ils vivent comme ça en altitude. Ils emmènent des fois des poules pour avoir des œufs, ils font leur propre pain, ils font leur nourriture, ils font les pâtes eux-mêmes. Et en fait, ils restent là-haut pendant plusieurs mois. Et ça veut dire qu'ils retrouvent un lien avec la nature qui est hyper important pour eux. Ce sont les nomades, ils ont un lien à l'environnement qui est vraiment très puissant. C'est une culture chamanique ou animiste, c'est-à-dire qu'ils croient que il y a des esprits dans l'environnement qui les entoure. Ils vont voir un esprit dans l'eau, un esprit dans la steppe, dans le vent. Donc ils ont vraiment un lien très particulier avec la nature. Et surtout, en fait, la nature, elle est tellement hostile, elle est tellement dangereuse dans ces altitudes-là que, ben, en fait, il y a une vraie solidarité qui opère. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit une femme ou un homme, peu importe qu'on soit kirghize ou française, qu'on parle la même langue, qu'on ait la même religion, il n'y a pas de question qui se pose, c'est évident qu'on va s'aider les uns et les autres. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de solidarité au sein des familles. Et nous, en tout cas, quand on passait auprès de leur yourte, ils ont toujours été très solidaires. Et pour les Kazakhs, c'est un peu différent. Le Kazakhstan, c'est un pays qui est immense, qui fait 5 ou 6 fois la France. Et au Kazakhstan, en fait, il y a des grandes villes qui se sont développées à l'époque soviétique. Ce qui fait que, malheureusement, aujourd'hui, les femmes restent dans ces grandes villes et ce sont les hommes qui montent seuls, justement, avec les troupeaux. Et donc, l'ambiance sous la yourte est un petit peu moins sympathique qu'au Kirghizistan, un peu moins chaleureux quand même. Et c'est long, c'est dur, en fait, le métier de berger parce qu'il fait très froid, parce qu'il y a du vent. Et donc, en fait, ouais, c'est assez éprouvant pour eux. Donc, c'est pas tout à fait la même chose au Kazakhstan et au Kirghizistan.
Contre une poignée de billets, il y a quelques semaines, nous avons décidé d'emmener avec nous 3 chevaux encore sauvages. Nous avons égoïstement arraché Victor et Tibouchon à leur terre natale et aux troupeaux qui les avaient vus naître. Aujourd'hui encore, nous n'arrivons pas à oublier cette culpabilité. Pour Moni, c'est différent. Au vu de nombreuses cicatrices que porte son cœur frêle, nous n'avons aucune difficulté à deviner des premières années difficiles. Nous l'avons même probablement sauvé du couteau du boucher. Son caractère est bien plus enjoué que celui de ses 2 compères, comme s'il était ravi et reconnaissant d'une telle renaissance.
Quant à Ben, il est et restera maître de son destin. Il s'est joint à nous un beau matin, mais il peut changer d'avis aussi soudainement et suivre ailleurs son instinct. Nous ne le forçons pas à rester, mais apprécions sa compagnie. Et nous sommes convaincus que, outre le fait d'intervenir lors de situations dangereuses, il arrive par sa seule présence à en désamorcer quantité d'autres. Avec lui, nos chevaux sont bien gardés. Cette sensation d'être lié à nos chevaux et à notre chien se renforce.
Dans vos rencontres, avez-vous des personnes en particulier dont vous voudriez nous parler ?
Il y en a plein, c'est dur d'en choisir. Mais peut-être vous parler d'Ismaïlou. Ismaïlou, ça devait être quelqu'un qui avait à peu près votre âge, je pense. Et Ismaïlou, en fait, on est arrivé un moment dans un village. On était très fatigués. On sortait d'une vallée qui avait été très compliquée. On n'avait pas réussi à manger suffisamment. On a perdu peut-être 10 kilos en l'espace de quelques semaines. Enfin, c'est énorme. Le corps, il est vraiment mis à rude épreuve. Et Ismaïlou, en fait, quand on est arrivé dans ce village-là, on cherchait de la nourriture et puis on demandait aux gens, est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez nous héberger, nous et nos chevaux? Et tout le monde nous disait non, c'est pas possible. Enfin, les gens étaient assez fermés. Et en fait, on n'avait pas fait attention, mais Ismaïlou, il nous avait entendu dans un petit magasin. On avait posé la question et il nous a rattrapé un peu plus loin. Il nous a dit, en fait, moi, j'habite dans ce village-là et je peux vous accueillir avec mon père. Et en fait, il était seul avec son père et donc ils nous ont accueillis chez eux dans une maison. Là, pour le coup, c'est pas une yourte. Ils ont offert à manger, à boire à nos chevaux. Ils nous ont fait à manger à nous. C'était hors de question de les aider à cuisiner. Vraiment, ils nous ont cuisiné un repas, mais énorme. On n'a pas réussi à tout manger. Et Ismaïlou, en fait, il était donc chez son père à ce moment-là, mais le reste de l'année, c'est un étudiant au conservatoire. Et il joue du koumis, qui est une petite guitare traditionnelle à 3 cordes. Et en fait, il joue très bien de cet instrument. Et il nous a joué de cet instrument. Il nous a chanté des chansons. Et les Kirghizes et les Kazakhs, vu que ce sont des nomades, en fait, ils se transmettent les histoires et les contes et les légendes de leur peuple de manière orale. Et donc, en fait, quand il a commencé à chanter ces chansons-là, il nous racontait l'histoire de son pays. Et ça, c'était un moment qui était hyper touchant parce que, Parce que ouais, on a vraiment réussi à plonger dans l'histoire kirghize et c'était un moment qui était complètement magique. Et il l'a fait avec beaucoup de simplicité et de générosité. Donc nous, forcément, ça nous a marqué. Et ça nous marque aussi parce que dans ces voyages-là, ce qui est dur, c'est que on rencontre des gens qui ont un vrai impact sur notre vie, qui nous sauvent la vie littéralement des fois. Et on sait que ça va durer qu'une soirée, qu'on va devoir leur dire adieu. On sait qu'ils sont encore en vie, mais on les reverra jamais. En fait, ça, c'est dur parce que nous, on doit continuer d'avancer, mais on doit dire adieu à ces gens-là. Et donc, forcément, c'est triste et c'est beau à la fois parce que on vit l'espace d'une soirée quelque chose à 100%, mais pour autant, faut dire adieu à ces gens-là. Alors qu'on aimerait quand même pouvoir les revoir.
Était-ce difficile d'être deux femmes étrangères là-bas ? Fallait-il faire attention ?
Alors oui, il faut faire attention, mais deux hommes auraient dû faire à peu près autant attention que nous. C'était pas forcément dur dans le sens où on a aussi choisi le Kirghizistan parce que c'est un peuple cavalier, c'est un peuple qui utilise les chevaux et on voulait que le cheval soit un moyen de communication. Ça rejoint un peu la question de l'un d'entre vous tout à l'heure. Et en fait, là-bas, on s'est rendu compte que les gens, quand ils nous voyaient arriver, ils regardaient d'abord nos chevaux et vu que nos chevaux étaient en bon état, il y avait un espèce de respect mutuel qui s'instaurait vraiment très naturellement. Et seulement après, il levait les yeux et il regardait qui était posé sur la selle. Et après quelques mois de voyage, on ressemblait pas vraiment à deux femmes de toute façon. Et en fait, il nous respectait en tant que cavalière, en tant qu'éleveuse. Et il se posait même pas la question de savoir si on était un homme ou une femme. Ça, c'était pour les éleveurs, pour les nomades. Après, on a rencontré d'autres personnes avec qui c'était un petit peu plus compliqué, des militaires notamment, ou des villageois, qui comprenaient pas, enfin, pour eux, c'était pas concevable que deux femmes seules puissent voyager. Ils étaient persuadés qu'on cachait un homme, ils étaient persuadés qu'on devait avoir un guide avec nous, et donc ça, c'était compliqué de leur expliquer que, non, on était peut-être un peu naïve et un petit peu folle, mais on faisait vraiment le voyage que toutes les deux. Et donc ça, des fois, c'était un peu fatigant de devoir expliquer à chaque fois les choses et de comprendre que ça leur posait problème, quoi.
Comment avez-vous remercié les gens qui vous ont accueilli ?
C'est vachement dur de les remercier, en fait, parce qu'ils veulent pas qu'on les remercie. Nous, à chaque fois, on essayait de leur offrir un petit peu de nourriture, et eux refusaient catégoriquement. Encore une fois, ils nous disaient, alors, vu la vallée dans laquelle vous engagez, gardez votre nourriture, vous allez en avoir besoin. Quand on essayait de les aider à s'occuper des bêtes, ils nous disaient, non, reposez-vous. Là, en fait, c'est nous qui gérons, vu la vallée dans laquelle vous allez. Après, ça va reposer que sur vous. Donc là, juste, reposez-vous, faites-nous confiance. Et donc, on les remerciait juste en partageant un moment de vie avec eux. En fait, je crois que c'est aussi simple que ça. Et eux, c'est tout ce qu'ils avaient à nous offrir aussi. Donc, c'était aussi simple que ça. Ouais.
Pouvez-vous nous raconter des anecdotes précises dans vos rencontres, notamment avec Ben, le chien qui vous a accompagné ?
Il y en a plein des anecdotes avec Ben. Peut-être que vous en avez lu. On vous en a partagé quelques-unes dans le livre. Laquelle choisir, ça va pas être évident. Alors déjà pour expliquer qui est Ben, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure sur la question, je parlais des chevaux mais pas du chien, c'est un personnage quand même à part entière notre Ben. On rêvait de faire ce voyage avec trois chevaux et un chien. Mais on savait pas comment trouver ce chien-là. Est-ce que on se disait faut peut-être qu'on l'achète, peut-être qu'on va nous le donner. Et en fait, la veille du départ, on fait des petites boucles autour de la yourte, on essaie de faire connaissance avec les chevaux. On s'abrite le temps d'un orage dans une maison de berger. Et Ben, c'est le chien de ces bergers-là. Et en fait, il nous suit. Et il nous suit comme ça les premiers jours. On le caresse pas, on lui parle pas, on lui donne pas à manger. Et il continue de nous suivre. Et en fait, on se dit, il a l'air vraiment décidé à nous suivre. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que il avait l'air plutôt bien décidé quand même à nous suivre. Et l'anecdote que je peux vous raconter, peut-être c'est une anecdote qui est pas dans le livre, c'est la fin du livre, le retour. Peut-être que c'est un peu précipité dans le livre, mais Ben, vous avez compris qu'à la fin, Léopoldine était seule, elle a pas réussi à laisser Ben sur place. Elle a dû laisser les chevaux, mais pas Ben. Et Ben, en fait, on a dû le ramener en France. Aujourd'hui, Ben est chez ma sœur en Normandie. C'est un chien, c'est un labrador de salon. Et en fait, le retour de Ben, c'est que elle a dû prendre un avion entre le Kazakhstan et Moscou. Après, on a regardé Google Maps, on s'est dit, il y a une voie de chemin de fer qui fait Moscou-Lettonie. Moi, il y a une route qui fait la France-Lettonie. Ça se coupe à un endroit. On va essayer de se retrouver à cet endroit-là. Et donc, on s'est appelé quelques jours avant. On s'est dit, OK, si tu prends ce train-là, normalement, sur cette ville-là, on devrait réussir à se retrouver. On s'était pas donné un point de rendez-vous fixe, vraiment. On s'est dit, on arrivera forcément à se retrouver. Sauf que ce que je savais pas, c'est que Léopoldine est bien montée dans le train. Sauf que, à 2 ou 3 heures du mat, à 15 kilomètres de la frontière, elle s'est fait sortir du train par les militaires russes parce que son visa avait expiré. Elle s'est retrouvée en plein milieu de la forêt, en plein milieu du mois de décembre, il devait faire moins 15 degrés à 15 km de la frontière. Moi, je continue d'avancer en voiture et je ne savais pas que ma sœur n'arriverait jamais au point de rendez-vous. Elle a réussi à trouver un moyen à arriver à la frontière avec Ben toujours qui la suivait. Elle a passé le poste frontière, Ben est devenu européen sans que personne s'en rende compte parce qu'il est passé sous les douaniers. Les douaniers l'ont pas vu passer, ils étaient occupés à voir ma sœur, mais qu'est-ce qu'elle fait là à 4 heures du mat quand même. Et après, ma sœur a continué à pied. J'avais toujours aucun moyen, moi, de communiquer avec elle. Elle a vu deux routes. Elle a vu une route à droite, une route à gauche. Elle s'est dit, bon, je vais prendre celle de gauche. Et elle a continué à avancer. À un moment, elle était épuisée. Elle s'est assise sur le bord de la route. Et la route à gauche, c'est celle que moi, j'étais en train de prendre. Et donc, moi, je roulais. Il y avait du brouillard partout. Je longeais la frontière russe. Et je me disais, je vais réussir à retrouver ma sœur à un moment. Et je vois quelque chose du coin de l'œil. Je pile, je fais marche arrière. Et en fait, sur le bord de la route, c'était ma sœur et mon chien. Donc, voilà pour une petite anecdote avec le chien.
Cap à l'est vers le mythique caravansérail de Tashraba, qui se cache au milieu de la haute chaîne d'Arbashi. Nous nous élançons vers cet horizon chargé de promesses, vers cet avenir incertain. Nous voilà partis, et nous ne sommes pas seuls puisque le chien de la veille nous emboîte le pas de son propre chef. Aucune de nous ne lui a témoigné une quelconque marque d'attention, mais il fait preuve d'engouement en rejoignant notre caravane. Comme il est plaisant d'observer l'ordre s'établir dans le groupe, de voir un semblant de hiérarchie s'instaurer entre nos chevaux.
Ils se connaissent peu, nous ne les connaissons guère plus et nous cherchons justement à déceler leur caractère. Victor, prétentieux, hautain et arrogant, s'impose comme chef de file incontesté. Il a pour ombre Tibouchon qui ne se démarque pas par sa bravoure, sauf quand Victor le précède. Il est plus délicat, attendrissant, même un brin maladroit. Moni, le cheval de bas, voue quant à lui un amour infini à n'importe quel être vivant, qu'il se tienne sur deux ou quatre pattes, qu'il ait la taille d'une souris ou d'un yak. Moni est résolument enjoué, quelque peu étourdi et vraiment imprévisible. Lorsque l'ensemble de la troupe part à bâbord, lui vire à tribord aussi sec que possible, nous arrachant l'épaule au passage.
Qu'avez-vous fait de vos chevaux ?
Eh bah, bien, les chevaux, on savait qu'on ne pourrait pas les ramener, en fait. On savait que ça allait nous prendre peut-être des années à les ramener. Donc, en fait, on a réussi à trouver une bonne famille pour les laisser. On a trouvé un jeune couple kazakh qui travaille dans un parc naturel là-bas. Et on a réussi à les donner contre un tout petit peu d'argent pour... En demandant juste de tenir une promesse, enfin deux promesses. La première, c'était qu'ils restent tous les trois. On voulait pas qu'ils soient séparés. Et la deuxième, c'était qu'ils finissent pas tout de suite dans le fond d'une marmite. Il faut savoir que les Kazakhs mangent les chevaux. Et on n'avait pas envie qu'ils mangent nos chevaux. Donc en fait, on a réussi à les donner. Et on aime croire qu'ils sont toujours en train de promener des touristes au Kazakhstan. Mais on a dû les laisser sur place.
Comment s'est passé le retour à la vie normale ?
Le retour à la vie normale, il a été compliqué, il a été très très dur, mais il a été un petit peu facilité parce que ce voyage-là, on l'a fait en 2019. On est rentré en décembre 2019 et quelques mois après, vous savez tout ce qui s'est passé. Même si on avait envie de repartir, bah, c'était pas possible de toute façon. Donc ça nous a vraiment calmé en fait le Covid. Mais non, ça a été très très dur. C'est dur en fait de redevenir sédentaire, de rester dans une maison alors qu'on avait marché plus de 1600 km pendant des mois et des mois. Tous les jours, on dormait à un endroit différent. Tous les jours, on découvrait quelque chose de différent. Donc de devoir rester confiné chez nous, ça a été un peu compliqué au début quand même. On n'a pas respecté toutes les règles de confinement entre nous, mais non, c'était vachement dur quand même le retour.
Qu'est-ce qui vous a manqué après ce voyage de 4 mois ?
Bah, ce qui nous a manqué, c'est... c'est la nature, juste les montagnes, l'environnement naturel. Moi, je suis revenue, j'habite à Lyon. Quand je suis revenue à Lyon, il y avait trop de bruit, il y avait trop de voitures, il y avait trop de monde. Vraiment, je sentais que tout le monde s'agitait, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus paisible. Et je crois que c'est ça qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est nos animaux. Ça a été un vrai déchirement de les quitter. Quand moi, j'ai dû partir avant ma sœur, enfin, c'était vraiment une sensation très douloureuse de devoir se séparer de ces animaux. Donc, eux, ils m'ont manqué terriblement. Ça m'a manqué de plus être nomade, de plus pouvoir juste rêver, être rien d'autre que quelqu'un qui marche, quoi. J'ai retrouvé un boulot avec des responsabilités, j'ai retrouvé des gens, un ordinateur. Enfin, c'était une torture pour moi, quoi. J'avais juste envie de retourner dans des montagnes à cheval.
Est-ce que la relation avec votre sœur a changé ?
Elle est devenue encore plus forte, si c'était possible. On était déjà très très proches avant de partir, mais elle a changé parce que maintenant on a cette expérience commune et toutes les deux on a touché du doigt quelque chose d'assez extraordinaire au sens vraiment littéral du terme. Mais on partage maintenant cette expérience toutes les deux et seuls nous savons ce que c'est d'atteindre de tels niveaux d'adrénaline, de sentiment de liberté, de sentiment d'évasion. Et donc notre relation a changé. Après, ce qui est important, c'est que on s'entendait déjà très très bien avant de partir. Ça veut dire qu'on n'avait rien à régler sur place, quoi. Et ça, c'est plutôt important parce que dans des moments très compliqués, c'est pas là où faut commencer à se dire en fait, je t'en veux. Il y a 15 ans, tu m'as fait ça. Enfin, c'est un petit peu dangereux. Nous, il n'y avait pas du tout ce sujet-là. Donc, on s'entendait déjà très bien. Maintenant, on s'entend très très bien, quoi.
Combien a coûté votre voyage ?
Et ça, on nous pose souvent la question et je sais toujours pas y répondre. C'est un petit peu dur à évaluer. Pas très cher, parce que volontairement, on n'a pas pris du matériel technique. On aurait dû, on a eu très très froid, on aurait dû prendre du matériel beaucoup plus technique, mais bon, on n'avait pas beaucoup d'argent quand on est parti. Pour un ordre d'idée, un cheval là-bas, ça vaut environ 1000 euros. Un petit peu plus de 1000 euros. Donc on en avait trois. Après, on a dû acheter du matériel pour les chevaux, les selles, les filets et notre tente, le matériel du bivouac. Et après, c'est tout. Les billets d'avion, à la limite. Mais c'est tout. Donc ça va chercher autour de 5000 ou 6000 euros, je pense. Ouais.
Avez-vous pensé à faire un voyage humanitaire ?
Moi, je travaillais dans l'humanitaire avant. Donc c'est mon travail, donc je ne le conçois pas comme un voyage. On avait envie de vivre une aventure. Et il y a plein de... Dans l'humanitaire, il y a la dimension humaine vraiment qui est hyper intéressante. Et nous, en rencontrant les gens, en essayant de comprendre comment ils vivaient là-bas, il y a un tout petit côté humanitaire. Mais on n'allait pas aider des gens du tout. C'est juste qu'on s'intéressait à la manière de vivre des gens sur place. Mais vu que moi, c'était mon travail avant, encore une fois, je le conçois pas trop comme un... J'en fais pas un voyage, quoi. C'est juste mon boulot.
Vous venez de remporter le prix littéraire du Festival Curieux Voyageurs pour ce livre Cavalier, la chevauchée kirghize. Êtes-vous contente ?
Non, pas du tout, non. Non, vraiment pas. Je suis même un peu déçue. Non, bien sûr que je suis contente et je suis hyper heureuse parce que déjà c'est un prix des lecteurs. Ça veut dire qu'il y a des gens dans les médiathèques et les bibliothèques qui ont lu notre histoire, qui sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de voyager, qui connaissaient ces pays-là ou ce mode de voyage. Et là où je suis heureuse, c'est que peut-être que dans nos histoires qu'on vous a partagées, il y a quelque chose qui vous a touché, qui est un petit peu universel. Et là, je me dis que c'est vachement chouette, quoi. Enfin, ça veut dire que ça parle à tout le monde. Un rêve de deux gosses, là, de deux jeunes femmes qui ont vécu ça, ça fait écho chez les gens et ça, c'est très touchant. Ouais. Donc, bien sûr que je suis terriblement heureuse d'avoir reçu le prix et ma sœur l'est évidemment aussi.
Quels sont vos projets pour l'avenir ?
De manière générale ou l'avenir ? Sans grande surprise, repartir. Enfin, moi, je suis déjà repartie depuis ce voyage-là. Je repars très souvent. J'ai eu besoin de repartir dans ce qu'on appelle de la haute montagne. Je suis repartie dans l'Himalaya pour marcher un petit peu. Je vais probablement repartir cet été aussi. Donc, des projets de voyage et en même temps des projets de vie beaucoup plus stables avec un métier, avec un environnement beaucoup plus stable. Donc, j'alterne à chaque fois, moi, entre les deux. Mais une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, dans les voyages, on ne s'arrête jamais vraiment. Donc je pense repartir, ouais.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Juste merci et bravo pour la préparation des questions. Vos questions sont hyper intéressantes. On ne me les a pas souvent posées de cette manière-là, donc bravo à vous. Et merci, c'est très agréable de faire ça avec vous et vous avez super bien géré. Donc peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant de rajouter quelque chose, mais surtout bravo à vous pour cet exercice-là.
Bonjour. Je suis bénévole du Festival Curieux Voyageurs et j'aurais aimé savoir si vous aviez n'avez jamais eu l'intention de faire un film à partir de ce que vous avez vécu.
On nous pose souvent la question. Enfin, on la formule pas comme ça. On nous dit mais quand est-ce que vous sortez un film plutôt. Et non, on n'a jamais eu l'intention pour plein de raisons différentes. Déjà parce qu'on sait pas faire. Ça nécessite d'avoir des vraies compétences de réalisation, de montage que clairement on n'a pas. Ça c'est une première raison. Deuxième raison, on n'avait pas envie de mettre une caméra entre nous et les gens, nous et notre aventure sur place. On voulait pas que ça crée une espèce de barrière. Quand on rentre dans une yourte, on n'avait pas envie de filmer la scène, on voulait la vivre vraiment pleinement de la manière la plus simple et authentique. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et c'est tout à fait personnel. Je suis pas du tout en train de critiquer ceux qui font des films parce qu'ils le font en plus très très bien. Mais moi, je me sentais vraiment pas à l'aise et j'avais peur. Et Léopoldine aussi, on avait peur que ça casse quelque chose dans les échanges. Et troisième raison, je crois qu'on aime particulièrement ce support-là. Parce que pour nous, les mots, ça permet au lecteur de pouvoir s'imaginer quelque chose, en fait. Là où, moi, le film, je le vois comme une image et on peut pas voir ce qu'il y a en dehors du cadre. On voit ce que le réalisateur ou la réalisatrice nous donne à voir. Là où les mots, quand vous avez lu le livre, et peut-être que vous avez imaginé Ismaïlou, à quoi il ressemblait. Vous avez peut-être visualisé les montagnes qu'on essaie d'écrire, les sensations qu'on essaie d'écrire. Et je trouve que le livre laisse beaucoup de place à l'imagination pour le lecteur et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, en tout cas.
Ici, la réalité est à l'opposé. Les premiers jours nous manquons de repères. Nous nous sentons entravés dans l'appréhension de la culture kazakh, sans aucun échange avec les locaux au préalable, comme nous en avons eu durant nos semaines passées à Bikek avant de nous mettre en selle.
Les frontières ne sont pas que des lignes tracées par la main de l'homme. Elles marquent aussi les différences géologiques, linguistiques, culturelles ou politiques. Ainsi, nous ne connaissons ni les règles, ni les habitudes, et nous peinons à adapter notre comportement pour être bien perçus par les premiers kazakhs rencontrés.
Est-ce que vous avez retrouvé contact avec des personnes que vous avez rencontrées là-bas ?
Oui, Ismaïlou notamment, j'ai gardé contact avec lui et quelques-uns, mais pas tant que ça parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on continue d'avancer. Eux, ils continuent de vivre leur vie et donc on n'a pas forcément un intérêt débordant à garder contact avec eux. En revanche, si on retourne là-bas, je pense qu'on essaiera forcément d'aller les voir et j'espère peut-être qu'ils se souviendront de nous. Nous, en tout cas, c'est sûr qu'on se souviendra pour toujours de ces rencontres-là. Donc on garde pas contact, mais on garde un petit bout d'eux en nous. Enfin, on pense très régulièrement à eux. Ouais.
Bonjour. À la lecture de votre livre, il est scindé en deux parties. Il y a le Kirghizistan et le Kazakhstan. Et en fait, j'ai eu l'impression à la lecture que le Kazakhstan était moins développé, même si ça avait l'air d'être votre point de chute, en fait, le but de votre voyage, si tant est qu'il y a un but, que le voyage ne soit pas en lui-même un but. Pourquoi c'est moins développé ? En fait, on a l'impression qu'il y a un côté où ça s'accélère. Vous arrivez à la fin et en fait, c'est beaucoup moins développé que la première partie.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une raison ?
Oui, il y en a là aussi plusieurs. Déjà un choix, on s'est dit on va essayer de raconter notre histoire et au Kazakhstan on s'est séparés. Donc en fait, le gros de l'histoire, c'était le Kirghizistan, là on était ensemble et un petit bout du Kazakhstan. Donc c'est tout simplement un choix plutôt littéraire de se dire quelle histoire on a envie de raconter. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, quand on a écrit le livre, c'était encore peut-être un peu compliqué de poser des mots sur ce qu'on avait vécu. Et le Kazakhstan, ça a été très dur pour Léopoldine notamment. Et elle l'a vécu seule. Là, on avait pu écrire à deux le Kirghizistan. Elle devait écrire seule cette partie-là. Donc c'est un exercice qui est quand même assez complexe. Et c'était vraiment un choix aussi avec les maisons d'édition de se dire, on concentre le récit plutôt sur la partie où on voyage à deux. Mais enfin, vous avez tout à fait raison. C'est non seulement c'était le but de notre voyage d'atteindre l'Altaï qu'on n'a jamais réussi à atteindre au nord-est du Kazakhstan, mais en plus c'est vraiment un gros morceau. Enfin, elle est restée longtemps là-bas. C'est plus un choix littéraire. On pourrait faire un tome 2 avec juste le Kazakhstan, ça se trouve, mais on le fera pas. Pas de spoiler, on ne fera pas de tome 2.
Oui, bonjour. Moi, je voulais vous demander. Vous nous avez dit que lorsque vous étiez parti en Australie, vous aviez à peu près l'âge qu'ont les élèves. Et je voulais savoir, vos parents, comment est-ce qu'ils ont accepté ce départ ? Comment ils l'ont vécu ? Est-ce qu'ils se sont pas fait du souci à ce moment-là ? Est-ce que ça n'a pas été trop dur ? C'est aussi une question un peu en tant que maman.
En tant que maman, voilà. Et j'imagine plus largement dans ce cadre de ce voyage-là. C'est eux qui m'ont proposé. Donc en fait, c'est pas qu'ils m'ont obligée du tout, mais ils étaient complètement partie prenante quand même de cette décision. Et mes grandes sœurs l'avaient déjà fait avant moi. Et en fait, je pense qu'ils sont partis du principe qu'ils nous ont offert la possibilité de beaucoup voyager ensemble, mais rapidement, ils avaient envie qu'on essaye de voyager seul.
de manière sécurisée. Je ne suis pas partie toute seule avec mon sac à dos. J'avais quand même des gens sur place qui m'attendaient. Donc il y a vraiment un cadre assez sécurisant. Pour autant, c'était à l'autre bout du monde, à une époque, et là je fais vraiment ma vieille en disant ça, mais il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui. Donc quand moi je devais appeler mes parents, je devais prévoir un rendez-vous, aller chercher un ordinateur. Enfin, c'était vraiment, ça paraît de l'antiquité ce que je raconte, mais vraiment c'était pas les mêmes moyens de communication. Et je pense que ce qu'ils nous ont offert, nos parents, c'est de la confiance en nous et de la confiance vraiment donc en nous en tant qu'individus et en nous en tant que leurs enfants. Et on savait que ils seraient toujours là pour nous, en fait, peu importe ce qui se passait là-bas, ils seraient là à notre tour. Donc en fait, il y a quelque chose de très quand on l'a dit à Noël, on va aller au Kirghizistan toutes les deux et au Kazakhstan à cheval. Ils n'étaient pas, c'était pas le meilleur jour de leur vie, hein, quand même. Mais ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance et ils savaient que projeter leur peur ou nous dire de pas y aller, de toute façon, ça allait rien changer. On irait quand même. Et ça allait juste créer une espèce de distance entre nous, là où c'était hyper important de garder du lien et d'entourer tout ça, ouais, de beaucoup de confiance et de compréhension. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont essayé en tout cas de nous inculquer dans les voyages.
Merci Élise Després d'être venue nous rencontrer ici à la médiathèque de Firminy et sur Radio Ondaine.
Merci à vous.